franceinter.fr. Le 7-9 de France Inter, première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Bonjour Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
Les manuels scolaires français propagent un sournois endoctrinement à la théorie du genre. L'accusation n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est celui qui la prononce, le pape François. Que lui répondez-vous ?
Que je regrette cette parole pour le moins légère et infondée. Je vois qu'il aura été lui aussi victime de la campagne de désinformation massive conduite par les intégristes, la Fondation Le Jeune, Vigigender et d'autres. Mais la réalité, c'est que je conseille au pape, lors de l'un de ses prochains déplacements en France, de venir à la rencontre d'enseignants de l'école française, tout simplement, et puis de discuter avec eux, de feuilleter lui-même ses manuels scolaires, ses programmes, et de m'expliquer en quoi il y aurait une théorie du genre qui n'existe pas par ailleurs dans ses livres.
Vous connaissez l'origine de la polémique. C'est un chapitre dans un manuel de SVT de première, je crois que c'est toujours à l'ordre du jour, qui s'appelle « Devenir homme ou femme ». C'est à ça précisément, apparemment, que le pape fait allusion, fait référence.
Le pape semble avoir été convaincu que les enseignants français passeraient leur temps à expliquer aux enfants qu'il y avait la possibilité dans la vie de changer de sexe.
C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il parle de programmes inscrits dans les manuels.
Est-ce que ceci est vrai ? Je veux dire, ceci, c'est une campagne de désinformation qui est conduite depuis des années et des années. Enfin, j'invite n'importe quel parent à feuilleter le manuel. D'ailleurs, je rappelle ici, par ailleurs, que les manuels scolaires, puisque vous y faites allusion, ne sont pas sous la responsabilité de la ministre. Hein. Ce sont les éditeurs qui font les manuels scolaires. Mais les programmes
scolaires...
Et c'était
sous le quinquennat précédent, en plus. C'était en 2011 qu'elle a été instaurée. Hein.
Oui, mais les programmes scolaires, qui, eux, sont de ma responsabilité, je vous invite à les regarder en détail, y est-il écrit à un moment ou à un autre, que dans la vie, l'égalité entre les femmes et les hommes signifie qu'on puisse changer de sexe. Parce que c'est ça ce que signifie théorie du genre. Donc la réponse est évidemment non. De quoi parle-t-on quand on parle d'égalité des sexes dans les manuels scolaires comme dans les programmes scolaires ? On parle de la nécessité, en effet, de ne pas hiérarchiser entre un sexe et un autre, de lutter contre les violences faites aux femmes, de lutter contre le sexisme, de lutter contre le harcèlement sexiste qui fait des morts parce que aujourd'hui. Trop de jeunes filles ne savent tellement pas réagir sur ces questions-là qu'elles finissent par porter atteinte à leur propre jour. Sur des sujets aussi sérieux que cela, on a donc aujourd'hui des intégristes capables d'embarquer, y compris le pape, dans leur folie mensongère. Moi, ça me met très en colère. Honnêtement, c'est pas un sujet de plaisanterie. Donc aujourd'hui, je crois que l'école française a plus que jamais besoin de la confiance des familles. J'invite ces dernières à ne se faire confiance qu'à elles-mêmes, à ouvrir les manuels de leurs enfants, à regarder ce qu'il y a dedans et à cesser toutes ces inepties.
Le pape François, c'est un chef spirituel, c'est aussi un chef d'État. Est-ce que ça pourrait justifier, nécessiter une réaction ou une mise au point diplomatique ?
Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer, le pape François en plus. Je suis plutôt pleine de respect à son endroit. C'est ça qui, j'avoue, me peine à certains égards. C'est que je n'imaginais pas qu'il pourrait se laisser entraîner par un ami qui lui raconte de gros mensonges et qu'il se contenterait donc de répéter. Donc... au nom de ce respect que je lui accorde, je l'invite à venir vérifier les choses par lui-même avant de s'exprimer à la légère sur un sujet qui me semble grave, c'est-à-dire, encore une fois, la confiance entre les familles et l'école française.
Autre chose, Najat Vallaud-Belkacem, ce terrible constat d'échec dressé il y a quelques jours par le Conseil national d'évaluation du système scolaire, le système éducatif aggrave les inégalités sociales. L'école française est la plus inégalitaire des pays de l'OCDE et, pire encore, la politique des ZEP, la politique d'éducation prioritaire est en cause. L'éducation prioritaire aboutit, écrit le rapport, à produire de la discrimination négative. On donne moins à ceux qui ont moins.
Mais l'évaluation qui a été faite là par des chercheurs est juste, mais il y a une chose qui me frappe, c'est la façon dont ce rapport a été reçu médiatiquement parlant, et exposé. Parce que si vous l'ouvrez, ce rapport, et que vous le lisez, vous voyez qu'en effet, le diagnostic qui est posé par les chercheurs, c'est pendant 30 ans, l'éducation prioritaire n'a pas forcément rempli les objectifs qu'elle s'était fixés. Cela étant, on peut se dire quand même que si elle n'avait pas été là, ce serait encore pire. Hein, mais bon, je ferme cette parenthèse. Pendant 30 ans, ça n'a pas rempli les objectifs. Il y a eu une réforme à la rentrée 2015 qui va produire ses effets. Pour l'instant, c'est difficile comme chercheur de les évaluer, les effets. On a forcément toujours besoin de recul. Cette réforme va dans le bon sens. Bien sûr, puisque cette réforme, eh ben cette réforme, elle va dans le bon sens de cesser de saupoudrer, puisque ce qu'on reprochait à l'éducation prioritaire ces 30 dernières années, c'était le saupoudrage. On mettait de plus en plus de territoires et du coup, chaque territoire avait très peu de moyens supplémentaires en réalité. Deuxièmement, l'aide ne portait pas suffisamment sur la qualité des enseignants. Eh bien, la réforme de 2015, elle fait justement cela, c'est-à-dire qu'elle rémunère davantage les enseignants en éducation prioritaire pour les stabiliser en éducation prioritaire et arrêter ce turnover permanent qui dessert tellement les élèves. C'est ce que fait donc la réforme de 2015. Troisièmement, faire en sorte que les enseignants sur place non seulement soient stabilisés, mais soient encore meilleurs que les enseignants qu'on trouve ailleurs. Eh bien, la réforme de 2015, elle prévoit de former beaucoup plus ces enseignants avec des décharges horaires qui leur permettent vraiment d'être finalement plus solides que les enseignants ailleurs, parce qu'on a besoin d'enseignants plus solides en éducation prioritaire. Donc, pour répondre à votre question, si on veut être un peu sérieux, on ouvre le rapport du CNESCO, on le lit en intégralité, et donc il y a deux points. L'éducation prioritaire pendant 30 ans n'a pas été à la hauteur. Deuxième point, la réforme engagée va dans le bon sens, il faut absolument la continuer.
Et
la
troisième
continuer,
point,
Constance,
que vous
parce
avez
que
oublié.
Si on l'interrompt, non mais je le dis pour vos auditeurs, si on l'interrompt, bien sûr, une fois de plus, tout ça aura été inutile.
Troisième point, écrit par le Conseil national d'évaluation du système scolaire, toute politique restera inefficace s'il n'y a pas de mixité sociale. C'est le point important qui est souligné par ce rapport. La mixité reste le grand absent des politiques scolaires depuis 30 ans.
Absolument, mais alors sur ce sujet, j'entendais une excellente chronique de votre chroniqueur.
De Thomas Legrand, qui l'a fait le lendemain matin,
Legrand,
effectivement, disant
sur cette même radio
qui disait quoi ? Ça ne relève pas du ministère de l'Éducation, c'est ça que vous allez dire ? Ça relève
disait,
de vos collègues
a,
de
qui disait, et je le rejoins
de la ville et du logement.
Il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'école, et moi je suis là pour prendre toutes mes responsabilités, y compris sur la mixité sociale. Vous savez que nous agissons en ce moment même, on y reviendra.
La carte scolaire,
mais
vous pouvez quand même poser un peu là-dessus.
Voilà, sur la carte scolaire, exactement, donc nous agissons. Mais il y a aussi tout ce qui relève de l'habitat qui entoure, bien sûr, et donc la politique de la ville, l'habitat, l'économie, l'environnement, économique directe des établissements scolaires, faire en sorte, en effet, que l'aménagement urbain permette davantage de mixité sociale. Mais une fois que j'ai dit ça, à l'école elle-même, nous prenons en main cette question. Nous avons, cette année, décidé d'en finir avec cette espèce d'alternative binaire qui existait jusqu'à présent. Pour faire plus de mixité sociale, il fallait soit rigidifier la carte scolaire pour éviter que les gens la contournent, etc. Sauf que ce faisant, vous emprisonniez les gens dans leur territoire pauvre, en fait. Soit, au contraire, faire disparaître la carte scolaire pour que chacun puisse, à la carte, choisir son établissement scolaire. C'est ce qu'avait fait Sarkozy en 2007. Et ce faisant, en réalité, vous surghettoisez les établissements desquels ne peuvent pas s'échapper certaines familles qui n'ont pas les codes, etc. Moi, la réponse que j'ai voulu apporter, elle est entre ces deux alternatives-là. Elle est de dire, on va partir du territoire, parce que d'un territoire à l'autre, la situation n'est pas la même, qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural. Redessiner la carte scolaire ne prendra pas la même forme. Par exemple, en milieu urbain, on peut imaginer une carte scolaire qui suive le tracé des transports urbains et donc faire plus de mixité comme cela. On peut, à d'autres endroits, faire des secteurs multicollèges pour avoir, dans un même secteur d'affectation, plusieurs collèges possibles. Et c'est la puissance publique qui vient pour mieux répartir les élèves et assurer de la mixité sociale. Nous sommes en train de travailler sur ces solutions qui sont de la dentelle, accompagnées d'ailleurs par des chercheurs pour le faire, pour évaluer cela au fil de l'eau. Ça va concerner 25 territoires dans un premier temps. Alors, moi, j'entends qu'on me dit, mais c'est pas beaucoup, c'est timide. Mais non, c'est comme ça qu'il faut procéder. Ça prendra peut-être, in fine, pour couvrir l'ensemble du territoire, 3-4 ans. Mais enfin, 3-4 ans, on a déjà perdu 35 ans. Ça va, on peut les prendre si on veut que ce soit solide et durable.
D'autres questions pour vous, Najat Vallaud-Belkacem, dans votre domaine de l'éducation nationale. Et puis, des questions politiques, sans doute, dans quelques minutes avec les auditeurs d'Inter.